franceinter.fr. Il est 7h44. Est-ce que ça va bien, les garçons?
Très bien.
Bon, alors on y va. On démarre avec vous, mon cher Alain Marathon.
S'il vous plaît.
Oui. Alors, est-ce que vous le savez que se tient ce week-end depuis hier, donc à Autun, la fête du livre?
Eh oui, l'occasion de préciser, avant de parler du papyrus, l'objet de la chronique.
Et avant de tousser, parce qu'à mon avis, vous en mourrez d'envie.
Oui, une petite allergie, que nous allons avec Alain Bougrain-Dubourg, avec vous à Autun tout à l'heure. Donc ceux qui ne nous ont jamais vus ensemble pourront apprécier le spectacle. Un spectacle
que je... C'est un déplacement.
Oui, et je garantis le spectacle. Alors le papyrus, disais-je, est une plante qui pousse en Égypte, en Syrie, en Palestine ou encore, eh oui, en Sicile, et qui a donné son nom papyrus au papier. Alors, soyons précis. Le mot papier est emprunté à l'italien paper, issu de paperium, altération du latin papyrus, du grec papyrus, qui signifie roseau d'Égypte, l'autre nom du papyrus.
Et à quoi ressemble le papyrus?
Le papyrus présente une longue tige qui peut atteindre 5 mètres de hauteur et qui porte à son extrémité des feuilles disposées en étoiles. La plante pousse le long des fleuves et des rivières et elle produit des graines qui se dispersent dans l'eau aussi pour éviter que la totalité des jeunes plants se retrouvent logique en aval. Le papyrus possède des racines qui se développent en sens contraire du courant et peut ainsi, en repartant de ces mêmes racines, coloniser des terres en amont.
Mais il n'est pas seulement... Là, vous avez parlé du papier, mais ce n'est pas la seule utilisation.
Ah bah oui, alors Pline l'Ancien, mort à Pompéi, je le rappelle, en l'an 79, victime de l'éruption du Vésuve, car trop curieux, il s'est approché trop près, eh bien, décrit les nombreuses utilisations du papyrus. On y apprend que le bois des racines gros comme le bras, servent à faire du feu ou à fabriquer des instruments de musique. L'écorce est aussi utilisée et les populations s'en servent pour tresser des voiles et des couvertures, des étoffes, des cordes et fabriquer même des embarcations.
Et pour le papier, alors comment est-ce qu'on fait?
Alors les artisans prélevaient et prélèvent toujours, il existe encore un petit artisanat, fort heureusement, de fines lamelles dans la tige. Ces fines tranches sont ensuite superposées, compressées, humidifiées, puis collées avec la sève de la plante. 20 feuilles données à un rouleau désigné en latin par le volume, par le mot volumen, volume.
Et le commerce du papier, ça démarre vraiment quand?
Alors, au 4e ou 5e siècle, il y a un petit doute encore sur la date. Ce que l'on sait, c'est que ça se commence vraiment à Gubal ou Gubla, une ville de l'actuel Liban. Gubal ou Gubla est plus connue sous son appellation grecque Byblos. La ville de Byblos devient un important marché du papier, si important que Byblos donnera son nom à la Bible, qui en grec signifie le livre.
Et vous parliez tout à l'heure justement du Salon du Livre d'Autun. Vous allez y présenter votre livre que j'ai lu hier dans le train, figurez-vous, et qui m'a ravi.
Ah ben j'en suis très heureux.
Le camélia de votre maman.
Oui, l'occasion de parler du camélia qui est une plante qui a une histoire extraordinaire, de parler aussi de celui de ma maman qui a résisté à 7 enfants et à la tempête de Cynthia, et puis c'était également un petit coin d'un clin d'œil amoureux à ma maman.
Oui, et à votre grand-père aussi. Enfin,
oui,
j'ai appris plein de choses sur vous.
Voilà, eh ben oui, mais je ne me dévoile pas trop non plus.
Catherine peut avoir du fumier de cheval, peut-elle le déposer tel quel dans le potager?
Alors, faut être prudent, parce que là, je parle sous le contrôle d'Alain Bougrain-Dubourg. Déjà, le fumier en tant que tel peut brûler les végétaux,
oui.
Donc attention au contact. Mais il s'avère que l'alimentation souvent des chevaux est devenue complexe. Il y a quantité, par exemple, de vermifuge, et que je ne suis pas toujours convaincu qu'utiliser aujourd'hui, eh bien, du fumier de cheval tel quel, ce soit toujours très bon. Donc avant.
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le délayer?
Il faut peut-être déjà l'entreposer dans un coin du jardin.
Et faire sécher?
Oui, mais attention, il faut également le couvrir pour éviter que les pluies torrentielles ne fassent, j'allais dire, que les eaux qui ont baigné
on
le tas de fumier.
On imagine la bouillie que ça peut faire.
Oui, mais surtout dans l'eau. Après, il y a quand même des nitrates qui se développent en trop grosse quantité. Donc, le purin, très bien, et le fumier dans le jardin, à consommer comme le whisky avec modération.
Comment éviter les traces de roues de tondeuse sur une pelouse, vous demande Paul.
Eh bien oui, c'est toujours le même système. C'est le printemps, on sort la tondeuse, on tond et puis les roues avant ont écrasé l'herbe. Ce qui fait qu'une fois que la tonte est terminée, on constate eh bien, que l'herbe se redresse et la tonte est loin d'être parfaite. Alors il y a la technique tout simplement de la croix. Quand on tond une pelouse, on va tondre avec des bandes parallèles eh bien, dans une direction bien précise. La fois suivante, vous tondez de manière opposée, perpendiculairement, et en faisant ainsi, vous éviterez justement eh bien, ces herbes qui apparaissent régulièrement et qui effectivement ne sont pas très esthétiques. L'occasion également de rappeler que lorsque l'on tond trop court, que se passe-t-il? Eh bien les pissenlits qui poussent horizontalement sont protégées des lames de la tondeuse et peuvent ainsi proliférer. Quand vous avez une terre avec beaucoup de, enfin un gazon avec beaucoup de pissenlits, laissez donc pousser l'herbe à 15 ou 20 cm. Les pissenlits, eux aussi, ne font plus attention, soulèvent quelque peu leurs feuilles et au passage de la tondeuse, eh ben très bien, c'est exactement ça. Frappe, très bien.
Est-ce qu'il est fatigant de regarder quelqu'un tondre? C'est une question de Patricia.
Oui, alors pas du tout, pas du tout.
Surtout pour le jardinier en chef.
Pas du tout. Et je rappelle même cette très jolie phrase, j'aime bien, de Raymond Devos, qui rappelait qu'un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe.
Émilienne possède dans le Loiret un grand étang. Elle a constaté que
mettez vos lunettes. Il n'y a pas de honte à partir d'un certain âge de porter des lunettes, Patricia.
Je disais donc qu'Émilienne possède dans le Loiret un grand étang. Elle a constaté que tous ces nénuphars avaient disparu, est-ce dû à un animal?
Alors, il y a deux choses. Déjà, le nénuphar est une plante à feuillage caduc. Caduc, cela signifie que les feuilles disparaissent à l'automne et réapparaissent l'année suivante. Peut-être que les nénuphars ne sont pas tous réapparus. Mais il y a une bestiole, et là je parle encore sous le contrôle d'Alain Bougrain-Dubourg, qui adore les feuilles de nénuphar, mais qui s'en délecte. On l'appelle ragondin. Je préfère employer le terme de myocastor. C'est plus joli. Mais effectivement, les ragondins, les myocastors, adorent les feuilles de nénuphars. Et quand vous avez une famille de ragondins qui s'est installée sur un étang, s'il y a des nénuphars, il y a fort à parier qu'au bout de quelques temps, il n'y aura plus de nénuphars. L'occasion donc de rappeler que les ragondins, et je parle encore et toujours sous le contrôle d'Alain Bougrain-Dubourg,
que feriez-vous
peuvent être éventuellement gênants quand ils sont trop nombreux, mais peuvent au contraire, en quantité raisonnable, permettre le nettoyage naturel des pièces d'eau.
Connaissez-vous un truc contre la cloque du péché, voudrait savoir Kitty.
Alors c'est la question qui revient tous les ans. La cloque du péché, c'est tout simplement une maladie cryptogamique qui fait vraiment flétrir, j'allais dire en quelque sorte, le végétal, qui n'aura pas la force nécessaire pour produire ensuite les pêches, mais ça touche également les abricotiers. Il paraîtrait, j'emploie le conditionnel...
Et là encore, vous parlez sous le contrôle d'Alain Bougrain-Dubourg.
Oui, bien sûr. Il paraîtrait, disais-je donc, qu'il suffirait d'installer dans l'arbre un filet contenant des coquilles d'œufs pour éviter que le mal ne progresse. J'ai beaucoup de mal à le croire. Et pourtant, il paraîtrait que ça fonctionne. Un de mes collègues, cette année, a tenté l'expérience. Nous verrons bien. On va donc pouvoir vérifier le visu, les résultats. Mais il paraîtrait donc qu'installer un filet, je rappelle, avec des coquilles d'œufs, est très très bon. Autre détail, le purin de prêle pulvérisé sur le végétal à l'automne et au début du printemps, lui serait par contre très efficace.
Vous savez que c'est fini pour vous?
Non, parce que j'ai le Festival des Jardins de la Côte d'Azur qui se tient jusqu'au 1er mai et je voulais absolument l'occasion de rappeler que c'est une très belle manifestation qui se déroule partout sur la Côte d'Azur, l'occasion de découvrir ou de reparler des fleurs de menton ou des orangers des fleurs de grâce et des orangers de menton.
De menton.
Citronniers aussi.
Oui.
Il y a des citronniers là-bas.
Merveilleux.